Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux pour une nouvelle saison avec Pierre Barry.
Bonjour.
Et Michel Lafon. Cette semaine, bon, ça va, on n'est pas débordé. Il y a 7 nouveautés, mais la semaine prochaine, c'est encore le grand départ avec 10 films. Mais bon, cette semaine, on parlera de Revoir Paris, Tout le monde aime Jeanne, Compromat, Rodéo, Le Visiteur du Futur, Le Tigre et le Président et Plan 75. On n'a pas tout vu. Enfin, je ne crois pas, mais on en a vu quand même pas mal. Pour ce qui est de la programmation musicale, je suis allé chercher des titres à la fois dans Tout le monde aime Jeanne et dans Rodéo. J'ai pas vu Rodéo, mais je sais que les musiques que je vais vous passer sont dans Rodéo. On commence par un titre Ad Gloriam, ou Gloriam, je pense plutôt, Le Orme. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et c'est un titre qu'on entend sur le générique du début du film.
Tout le monde, non?
Oui, Tout le monde aime Jeanne. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'étais perdu avec cette affaire-là. Voilà, donc c'est parti. C'est Le Orme, je ne suis pas du tout persuadé que ça se prononce comme ça, mais enfin, la chanson c'est Ad Gloriam, et on entend ça sur le début du film Tout le monde aime Jeanne. Tout le monde aime Jeanne, on en parle dans 5 minutes. On commence notre semaine cinématographique avec Revoir Paris. Revoir Paris, le film proposé aux cinéastes, aux méga CGR et aux Pâté Quinconce. C'est un film de Alice Vinocourt, durée du film 1h45. Alice Vinocourt, réalisatrice scénariste française née en 1976. Elle a fait des études à la FEMIS, elle a ensuite fait de nombreux courts-métrages, et puis on l'a découverte en 2012 avec Augustine, un film avec Vincent Lindon, Soko et Chiara Mastroianni, 2015, Maryland avec Mathias Kunertz, ou Schooners plutôt, Diane Kruger, et en 2019, Proxima avec Eva Green et Matt Dillon. Voilà. Revoir Paris, le synopsis, ma foi, assez simple. À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. 3 mois plus tard, alors qu'elle n'a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de l'événement que par bribes, Mia décide d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible. La revue de presse, Gilles Kerdreux, dans Ouest France, il est simple, il dit « c'est du grand cinéma ». Caroline Vier dans 20 minutes, Virginie Fira et Benoît Magimel sont exceptionnels dans la peau d'être traumatisés mais courageux face à l'épreuve qu'ils ont vécue. Céline Rouden dans La Croix parle d'un film pudique et sensible. Éric Neuve dans Le Figaro d'un film très au-dessus de ses concurrents sur le sujet. Stéphane Joby dans Le Journal du Dimanche, soutenu par un Benoît Magimel lumineux dans sa légèreté de façade. Virginie Fira impose sa grande justesse dans ce personnage de femme résolue à avancer sans oublier. Sandra Onada dans Libération, copieux, le programme émotionnel touche ses limites en assignant chaque personnage aux fonctions prévues par la construction dramatique. Et enfin, Mathieu Macheret dans Un cahier du cinéma, le problème du film vient plutôt de sa focalisation, la centralité de l'héroïne, personnalisant à l'excès la question de l'attentat, ramenée à une trame purement psychologique et débouchant sur une bien pâle romance résiliente. On aurait pu citer d'autres comme L'Obs, par exemple, ou Le Monde, qui sont plutôt favorables, ou Le Parisien, qui déclare que c'est un film émouvant. Voilà, donc je répète, le film est possible, il est possible de le voir au Méga CGR, au Pathé Quinconce, et au Cinéaste. C'est un film sur la possibilité de résilience, ici à travers le portrait de Mia. Mia, c'est une femme traductrice, victime d'un attentat terroriste, alors ressemblant beaucoup à ceux de novembre 2015, bien entendu. Mia ne se souvient plus de rien de ce qui s'est passé pour elle après le début de la fusillade dans le restaurant où elle était à ce moment-là, un peu par hasard. Pour essayer de se reconstruire, elle va rencontrer tous ceux qui étaient avec elle, présents sur place à ce moment-là. Le film parle ainsi d'amnésie post-traumatique, voilà, des réactions des gens, réactions d'ailleurs très variées après un tel événement, du désir de savoir ce qui s'est passé. Alors, le film est vu uniquement du point de vue des victimes, hein, pas du tout le vu par la police. On verra ça en octobre avec le film Novembre, exactement. Ou pas du tout du point de vue des terroristes, par exemple. Hein, donc c'est uniquement vu du point de vue des victimes. Et le film multiplie les témoignages et les façons d'appréhender l'attentat. Alors c'est touchant, bouleversant même par moments, j'hésite pas à le dire, et ça, sans jamais tomber dans le putassier, dans le racoleur. Hein. Donc le film montre parfaitement aussi l'incompréhension de ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vécu les faits, les événements, et pour cela la difficulté à maintenir les relations d'autrefois avec eux, justement avec ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas vécu dans leur chair l'événement. Et ça oblige donc les personnes victimes à se replier sur ceux qui ont connu la même expérience. Et ici, donc, pour Mia, c'est notamment se rapprocher avec un homme avec qui elle va peut-être pouvoir se reconstruire, et un homme qui, lui, se souvient parfaitement de tout. Donc c'est magnifiquement filmé dans un Paris souvent nocturne. C'est superbement interprété par Virginie Fira, Benoît Magimel. J'ai apprécié le film vraiment à 100%, à un détail près que je ne vais pas vous révéler parce que, bien entendu, à ce moment-là, ça serait, comme on dit, divulgâcher une partie du film. Mais c'est pour moi quasiment un film parfait pour essayer de faire ressentir des événements auxquels on n'a surtout pas du tout envie d'être soi-même confronté un jour, tant ils sont évidemment traumatisants. Un film intelligent, sensible, délicat, poignant même. Je pense que, je ne lui ai pas demandé son avis, mais je sais que Pierre Barry aime beaucoup Virginie Fira, donc il faudrait qu'elle fasse une grosse bouse pour pas qu'il aime.
Ouais. Sur fond d'attentat terroriste, donc, on suit une victime, Mia, interprétée par Virginie Fira. Mia qui a survécu au massacre, mais a subi un tel traumatisme qu'elle en est devenue presque totalement amnésique. Elle ne se souvient de presque rien, décide d'enquêter dans sa mémoire, avec l'aide d'une autre victime, interprétée par Benoît Magimel, recherche aussi d'un homme qui lui tenait la main lors de la fusillade. Ce film ressemble donc à une enquête menée avec le talent qu'on lui connaît par Virginie Efira, dans le rôle de Mia. Romance aussi entre les deux victimes, Mia et Thomas. Ce film a été inspiré à Alice Winocourt, la réalisatrice, par son frère.
Oui.
Je respire. Qui était présent le soir du 13 novembre 2015 au Bataclan. Oui, quand même. Hein. Film présent à Cannes lors de la quinzaine des réalisateurs, ce long métrage est à voir absolument. Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui.
Voilà, je m'en doutais un peu. Donc, à voir absolument, et vous avez l'embarras du choix, Colisée, Méga CGR, Pathé Quinconce et Cinéaste. Voilà. Tout le monde aime Jeanne, par contre là c'est uniquement au Cinéaste, c'est un film français, c'est un premier film d'ailleurs, et sa réalisatrice s'appelle Céline Devaux. Céline Devaux, elle avait auparavant réalisé des courts-métrages, elle est réalisatrice, scénariste et chef monteuse. Tout le monde aime Jeanne, ça dure 1h35, c'est au cinéaste, je le répète, et c'est ma foi plutôt bien servi puisque le film a droit à 2 séances par jour. Le synopsis, tout le monde a toujours aimé Jeanne, aujourd'hui elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l'appartement de sa mère disparu un an auparavant. À l'aéroport, elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant. Marussia Dubreuil dans Le Monde parle d'une belle comédie de la dépression. La rédaction du Parisien, dans ce film inspiré et original, Blanche Gardin et Laurent Lafitte sont hilarants et extrêmement touchants dans les rôles de deux êtres qui affrontent la vie avec leur gaucherie et leur fêlure, mais aussi une incroyable tendresse. Théo Ribeton les a recrutés, on est rapidement séduite par la justesse de ton, la qualité de rythme et l'humour savamment dosé de cette comédie romantique à tendance gentiment dépressive, assez classique dans ses principes de base, mais à l'exécution inspirée. La revue Positive, sous la plume de Louise Dumas, Tout le monde aime Jeanne, ne cesse de surprendre. C'est ainsi qu'il remporte l'adhésion de son public et tient le programme annoncé par son titre. Barbara Théâtre, le journal du dimanche. C'est un drôle d'objet que cette chronique douce amère qui réussit à mélanger scènes de pure comédie et grands moments de désespoir intérieur, tout en prenant, sans en avoir l'air, des allures de tendre romance. Frédéric Strauss dans Télérama parle d'un premier film attachant entre blues et fantasy. Sophie Grassin dans L'Obs, caustique, malicieuse, inventive, la comédie romantique de Céline Deveaux, premier film, choisit de panacher les genres, ça boite un peu, 1h35, c'est long, mais les comédiens font le job. Voilà, non. Donc le film est proposé, je le répète une fois de plus, au cinéaste.
Bah, c'est pas long, 1h35.
Non, je trouve pas. Ouais. Bon, c'est comme ça. Alors, c'est un petit film français, ma foi, fort agréable, sur une quadragénaire en pleine remise en question, au ton constamment ironique et décalé. Alors, Jeanne, c'est une ingénieure hydraulicienne. Son invention pour dépolluer les océans des matières plastiques a fait un flop retentissant. Et Jeanne, donc, est au bord de la faillite personnelle parce qu'elle avait engagé tout son argent dans cette invention. Seule solution pour éviter cela, vendre l'appartement de sa mère à Lisbonne, une mère qui est récemment décédée un an auparavant. À l'aéroport, Jeanne tombe par hasard sur Jean. Jean, c'est un copain d'enfance qui l'a reconnu, elle beaucoup moins. Jean est plein de fantaisie, sans souci, désinvolte et un peu collant quand même. Hein. Le film raconte donc le séjour de Jeanne à Lisbonne et ses rencontres avec différentes personnes dans la ville. Rien de plus banal, hein, a priori, comme sujet, mais toutefois, le film se distingue sur la forme parce que la conscience de Jeanne, bonne ou mauvaise, selon les circonstances, se manifeste en permanence et commande tout ce qu'elle fait sous la forme d'un petit personnage d'animation, une sorte de petit fantôme, un petit peu comme si vous sonnez dans les films de Tintin, quand il y a l'ange et le démon qui interpellent Tintin en permanence pour lui dire ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est plein d'humour, d'autodérision, de fantaisie, pour aborder des thèmes comme le deuil, la difficulté à s'engager, la gentrification de Lisbonne. Gentrification, c'est le mot normal pour dire boboisation en français. Et même l'écologie, oui, mais parce qu'il est question d'écologie dans ce film. Et puis, il est aussi surtout question d'inquiétude personnelle et pas loin de la dépression, parce que Blanche Gardin, qui joue le rôle de Jeanne, eh bien, elle est quand même dépressive. Alors, elle est parfaite, tout comme d'ailleurs Laurent Lafitte, un type gentiment amoral dans le film, dans ce film qui est éminemment sympathique, avec un humour subtil qu'on peut voir comme une nouvelle forme de comédie romantique, sortant quand même des schémas habituels du genre. Alors certes, ça reste quand même un film modeste, mais vous auriez quand même tort de vous en priver, parce que vous passeriez à côté d'un joli moment, bien agréable.
Pierre. Tout le monde aime Jeanne, et je vais chanter maintenant, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir.
Bon.
Tout le monde se lève pour Jeannette.
Ah oui, d'accord, j'ai compris.
À tel point que j'ai moi-même failli me lever d'ailleurs avant la fin.
Ah.
Ah oui, en effet, ce film est assez particulier, puisque sans cesse entrecoupé de séquences de dessins, plus ou moins animées, avec une voix off, qui parle à Jeanne, ou bien qui parle à la place de Jeanne. À cause de ça, j'ai eu quand même un peu de mal pour ce film. Bon, sinon, il y a de l'humour, tu l'as dit, beaucoup d'humour, si bien que je me suis surpris moi-même à rire à plusieurs reprises. Humour principalement dans les dialogues, assurés par Blanche Gardin et son prétendant, un peu collant parfois, Laurent Lafitte. Finalement, j'ai bien fait de rester assis, car si tout le monde aime Jeanne, eh bien moi aussi, j'en fais partie, moi aussi j'aime Jeanne.
Voilà, eh bien, dans Tout le monde aime Jeanne, il y a une chanson que j'adore, mais une chanson de vieux, hein, qu'on écoute que sur Nostalgie et pas sur Radio Alpa.
Ouais, c'est pour ça que je me suis permis de chanter, parce que les acteurs chantent cette chanson dans le film. Ouais.
Donc ça s'appelle Voici les clés, c'est Gérard Lenormand sur Radio Alpa, 107.3 FM, ça doit être une première à mon avis. Thank you.
Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Nanana, 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 nanana. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Moi je t'aime. Et n'oublie pas la communion de Nicolas. Pas de chance, j'allais t'emmener en Italie. En voyage d'amour. Pas de chance, moi je t'aime aussi. Et depuis bien plus longtemps que lui. Nanana, 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 nanana. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Moi je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Nanana, 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 nanana. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Nanana, 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 nanana. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut.
Et oui, on entend cette chanson de Gérard Lenormand, Voici les clés, dans le film Tout le monde aime Jeanne, et on l'entend même presque intégralement, enfin pas tout à fait, mais...
Oui, chantée par Blanche Gardin et Laurent Lafitte.
Absolument, voilà. Bon, ben c'était Gérard Lenormand. Compromat. Compromat, c'est un film qu'on peut voir au Méga CGR et au Pâté Quinconce. C'est un film français de Jérôme Salles. Jérôme Salles, réalisateur, scénariste, producteur, il est né en 67. Il a commencé par le court-métrage et un premier long-métrage qui était très très bien d'ailleurs. Anthony Zimmer avec Yvan Attal et Sophie Marceau, qui a même eu droit à un remake américain. 2008, Largo Winch avec Thomas Sisley et Christine Scott Thomas. Comme Largo Winch 1 avait bien marché, il y a eu un Largo Winch 2 avec les mêmes, mais aussi Sharon Stone. 2013, Zulu avec Orlando Bloom et Forest Whitaker. Et 2016, L'Odyssée, le film sur Cousteau avec Laurent, Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey Tautou. Je répète, le film de Jérôme Salles, durée 2h07, c'est un peu long d'ailleurs, proposé par le Méga CGR et le Pâté Quinconce. Russie 2017, Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d'un compromat, de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l'État. Menacé d'une peine de prison à vie, il ne lui reste qu'une option, s'évader et rejoindre la France par ses propres moyens. Alors, qu'en pense la presse ? Eh bien, Ouest France parle d'une course-poursuite haletante qui rappelle beaucoup Le Fugitif. Carole Nivier dans 20 minutes, Gilles Lelouch est éblouissant dans ce suspense haletant. Vous voyez, une fois de plus, haletant, mais je reprends d'ailleurs le mot. Hein. Alors, Le Parisien, c'est pas haletant, Le Parisien dit que c'est saisissant. François Forestier dans l'Obs, du cinéma d'action comme on aime, sans relâche. Frédéric Strauss dans Télérama, le réalisateur Jérôme Salle n'hésite pas à jouer la carte du thriller, avec quelques excès, mais sans perdre le pouvoir de conviction de ce film, prenant au décor réaliste, hanté par le spectre d'un régime russe fou et impitoyable. Stéphane Joby, Le Journal du Dimanche, film distrayant, préfère ne pas s'embarrasser d'un scénario crédible pour embarquer le spectateur dans la fuite de l'homme traqué. Olivier de Brune dans Les Échos, Jérôme Salle met en scène les mésaventures d'un expatrié français en Russie. Ce film incarné par Gilles Lelouch croule sous les invraisemblances et les clichés. Et Olivier de Brune déclare que le film est un ratage. Oui, alors il faut savoir que c'est basé sur une histoire vraie.
Ah oui, oui.
Et le personnage n'a pas trop apprécié, je crois, le film. Le vrai personnage n'a pas trop apprécié, je crois, ce qui a été fait du film. Il me semble avoir lu ça. Enfin, moi, j'ai vu Compromat. Et je veux dire que c'est un bon film à suspense. Je dis un bon film, je n'ai pas dit un très bon film. Un bon film à suspense gâché, à mon avis, par quelques scènes peu vraisemblables, notamment sur la fin. Voilà, mais ça n'empêche pas de trouver le film prenant avec un sujet et un contexte quand même inhabituel. Alors, ben, c'est le contexte et le sujet, c'est celui d'un homme, un directeur de l'Alliance française à Irkoutsk, dont le couple bat de l'aile et il est victime d'un coup monté, ce qu'on appelle un compromat. Un compromat, c'est un coup monté basé sur de faux documents destinés à le compromettre. Alors, sans comprendre d'où peut venir cette accusation de pédophilie qui lui tombe dessus et qui l'envoie directement à la casse-prison sans passer par... voilà, bon, bref. Et comme on est en Russie, ben, l'état de droit, c'est juste une idée abstraite et donc, c'est difficile pour lui de pouvoir se défendre. Alors, il est placé quand même sous bracelet électronique parce qu'il est quand même tombé sur un avocat qui est le meilleur de la ville et qui va quand même réussir à le faire sortir de prison où ses jours sont quand même en danger parce que pédophile dans une prison, dans une cellule avec des gars pas forcément recommandables. Bon, bref, il va devoir essayer de se sortir de cette situation kafkaïenne par ses propres moyens et quand même avec l'aide d'une jeune femme russe qu'il avait rencontrée un soir. Lors de son arrivée à Irkoutsk. Tout l'enjeu du film est donc de trouver les moyens de quitter la Russie sans se faire reprendre. Et pour le spectateur, c'est aussi l'idée de découvrir qui est à l'origine du coup monté. Un film qui parle aussi, et c'est son intérêt aussi d'ailleurs, de la Russie actuelle, de la mentalité de ses dirigeants qui considèrent les Occidentaux comme des décadents, des dépravés, des faibles, qui évoquent également les victimes de la guerre en Tchétchénie dont ils sont revenus détruits, de ces femmes aussi qui ne se résignent pas, qui aspirent à une vie meilleure, et puis ça part aussi de la réelle politique parce qu'on voit bien que l'ambassade ne fait pas grand-chose pour cet homme-là afin d'éviter de nuire aux relations diplomatiques entre la France et la Russie en 2017. Bref, il y a tout un contexte qui rend le film différent des thrillers classiques. Gilles Lelouch y est une fois de plus remarquable dans ce rôle de cet homme combatif qui se bat pour rétablir la vérité, mais surtout pour sortir du piège où il s'est retrouvé enfermé. Donc c'est une histoire, je le répète, inspirée de faits vrais. La réalisation est efficace, sobre. Le film ne connaît pas vraiment de temps mort, malgré sa durée quand même, c'est 2h17. Alors certains personnages sont complexes, pas tous, hein, les Russes méchants sont vraiment méchants et sans nuance pratiquement. Mais on regrettera toutefois, comme je l'indiquais au début, quelques invraisemblances, surtout sur la fin, sur les dernières 10-15 minutes, ça ne tient pas la route du tout. Mmh. Mais bon, cette façon de parler du fossé qui existe entre les deux façons opposées de concevoir les choses est vraiment intéressante, la façon occidentale et la façon russe. Et ça permet de comprendre aussi la situation actuelle de la Russie poutinienne et des relations entre cette Russie poutinienne et l'Occident. Voilà. Tu n'as pas vu Compromat ?
Non, j'avais l'intention de... Non, j'ai eu le temps que voir que deux films, donc. Mais j'ai l'intention de le voir, mais ça, la durée me fait un peu peur.
Ah, c'est un peu long, c'est vrai, c'est un peu long, mais c'est quand même assez prenant, il n'y a pas vraiment de temps mort, donc on peut aller voir Compromat au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Rodéo, c'est uniquement un film qu'on peut voir au cinéma...
Cinéaste,
absolument. Ce film est un film qui est là aussi, je crois bien, un premier film de Lola qui vaudront, oui, c'est un premier film, réalisatrice et scénariste de ce rodéo qui a droit à 2 séances par jour au cinéaste. Rodéo, durée 1h45. Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. Un jour d'été, elle fait la rencontre d'une bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin constitué majoritairement de jeunes hommes, avant que l'accident ne fragilise sa position au sein de la bande. Alors, la revue de presse, Carole Nivier, 20 minutes, un portrait de femme bouleversant, immersif et brillamment mis en scène au-delà de toute polémique. Oui, parce qu'il y a eu polémique au moment du Festival de Cannes, puisque le film a été présenté au Festival de Cannes. Mmh. Emmanuel Spalacenta, dans Cinématiseur, parle d'un film brut et traversé de fulgurance. Le Figaro, alors que ces dernières semaines, le sujet des rodéos urbains a beaucoup occupé l'actualité, le film mérite qu'on s'y intéresse. C'est heurté, enfiévré, dangereux, mais tellement vivant, l'adrénaline remplace l'essence. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, le film tourné à l'estomac fait feu de tout bois et de tout genre, western, polar, fantastique, et révèle en Lola Kivoron, qui signe son premier métrage, un sacré tempérament de cinéma. Le Parisien, l'ensemble dégage une énergie folle qui fait de son premier film une œuvre puissante dont on se souvient longtemps après. Sandra Onana dans Libération, tout ce chahut ressemble à la vie telle qu'on la rêve avec fièvre au cinéma. Naturalisme vorace, coupé à l'onirisme par moments, parce que c'est comme ça que le jeune cinéma français se plaît à le faire en ce moment. Olivia Cooper-Adjian dans Cahiers du cinéma, la démarche de Lola Kivoron force surtout le respect par le choix d'un traitement qui dépasse le naturalisme en combinant la présence rugueuse, parfois agressive, des textures, des couleurs et des sons, avec des accents mystiques frôlant le fantastique. Michael Mélinard dans L'Humanité, dans Rodéo, Julie Ledru, c'est l'actrice principale, hein, est insaisissable, animale, agressive, charmeuse, déroutante, d'autant que l'intrigue prend des chemins de traverse qui surprennent et nous laissent dans l'inconfort. C'est la force et la faiblesse du film, selon qu'on accepte ou pas de se laisser porter par la fascination de la cinéaste pour une pratique décriée où le flirt avec la mort est permanent. Bruno de Ruisseau, Les Inoccupés, dans Rodéo, tout est en place, on y sent une maîtrise et un talent de mise en scène assez spectaculaire. Ce qu'on regrette cependant, c'est que l'ensemble soit un peu trop sage, appliqué et manque parfois de folie. Céline Rouden dans La Croix. Précédé d'une réputation à la fois élogieuse et sulfureuse, ce premier film ambitieux, porté par le charisme de son actrice principale, Julie Ledru, a du mal à tenir ses promesses jusqu'au bout. Eh bien, personne parmi nous n'a vu... Ni Pierre ni moi n'avons vu Rodéo. Moi, j'étais pas hyper motivé et puis il se trouve que je n'avais pas le temps.
Peut-être.
Je n'étais pas vraiment hyper motivé par les histoires de moto. Ça me branche pas plus que ça. Le Visiteur du Futur. Cette fois-ci, on part au Colisée, au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Là aussi, un premier film. Le réalisateur François Descrac. C'est un réalisateur et scénariste de films pour la première fois, mais c'est aussi surtout le réalisateur et réalisateur de séries et de web-séries notamment. Donc, parce qu'il faut savoir que ce Visiteur du Futur a été pendant plusieurs années une web-série et que, vu le succès de cette web-série, eh bien, il y a eu une adaptation pour le cinéma en long-métrage. Le film dure 1h42. On est en 2555, dans un futur dévasté. L'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la brigade temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur. Voilà, ça c'est le synopsis. La rue de Pierre Presse, Caroline Vier dans 20 minutes. Cette adaptation d'une web-série à succès est très bien ficelée. Sylvestre Picard en première. Bref, une très bonne surprise qui parviendra à être plus excitante que les Marvel rincés récents. Comme le héros du titre, vous ne l'attendiez pas forcément, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'attendiez que lui. C'est un peu compliqué, ça. Hein, bon, voilà. L'Obs, entre pure science-fiction avec voyage dans le temps et distorsion du passé, course contre la montre et comédie cocasse, le film est alerte, plein de références et très efficacement ficelé. Bonne surprise! Stéphanie Belpech, Le Journal du Dimanche, adaptation d'une web-série à succès. Cette comédie de science-fiction référencée crée un univers insolite à l'humour absurde, savoureux, à la Camelot. Absolument. Michel Valentin dans Le Parisien, pas de quoi se tenir les côtes de rire non plus, mais Le Visiteur du Futur permet de passer un petit moment agréable, tout en s'élevant au-dessus des comédies franchouillardes, grasses et bas du plafond, qui déferlent régulièrement dans nos salles obscures. Voilà. Tout ça, c'est positif, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas apprécié. C'est Jean-Pierre Andrevon dans Les Camps Fantastiques. Si les incessants allers-retours entre présent et futur de quelques flics caparaçonnés et quelques résistances courant après alimentent en action et en gag bien lourdeau le suivi du récit, son background en est désespérément absent jusqu'à l'absurde. Le Figaro, malgré la présence d'Arnaud Ducré, un patron de centrale nucléaire, les apparitions comiques de quelques youtubeurs célèbres tels Mike Fly et Carlito, l'entreprise ne convainc pas vraiment. Ah ben oui, j'ai vu le film parce que les acteurs sont venus le proposer, le présenter à l'avant-première au Méga CGR, donc j'en ai profité pour aller le voir. Et donc, j'avoue, je ne connaissais absolument pas la web-série dont le film est le prolongement. Alors, je n'en avais même jamais entendu parler de cette web-série. Bon, mais ceci dit, je suis un vieux et moi, les web-séries, ce n'est pas vraiment trop mon truc. À l'arrivée, c'est quand même plutôt une bonne surprise. Je reprends le terme qui a été employé à plusieurs reprises. Même s'il y a des imperfections et des points faibles, je répète, c'est plutôt une bonne surprise parce que, avec manifestement peu de moyens financiers, la réalisation de François Descraques a su créer un univers de science-fiction qui tient la route et puis une histoire basée sur le paradoxe temporel, un peu comme l'armée des 12 singes, si ça vous dit quelque chose, voilà, ou même Terminator, hein. C'est plutôt réussi. Donc le film commence sur le ton de la comédie avec des dialogues et des répliques, un peu dans le ton de ce que fait Alexandre Astier, d'où la référence d'un critique à Kaamelott, que je reprends. C'est pour moi d'ailleurs le meilleur du film, hein, ce côté comédie. Mais le film devient vite aussi une histoire sur une relation conflictuelle père-fille. Alors, c'est une relation parfaitement conventionnelle. Hein, et le film, c'est aussi un message écologique antinucléaire, évoquant le fait que les décideurs d'aujourd'hui ne mesurent pas toujours les conséquences de leurs actes pour les générations futures. Alors là, c'est tout à fait dans l'air du temps, et ça devrait plaire aux jeunes générations sensibles à la question de l'écologie et de l'avenir de la planète. Donc ici, nous avons un visiteur venu du futur qui débarque dans notre présent, hein, en 2018-19, hein, plus exactement, pour essayer de modifier une décision d'un homme politique bien décidé à faire construire une centrale nucléaire, sans savoir que bien des années après, cette centrale nucléaire connaîtra un accident mettant en péril carrément la survie de l'humanité. Mais ce visiteur, bien intentionné, est lui-même traqué par une police du futur chargée de maintenir le continuum temporel sans qu'il soit modifié. Je ne sais pas si vous suivez, mais enfin, bon. Un film inventif, drôle par moments, émouvant à d'autres, oui, quand même émouvant à d'autres, plein de rebondissements, plein de personnages différents, interprétés par des inconnus, hein, à l'exception de Arnaud Ducré et quelques guests. Les acteurs principaux, je n'en avais jamais entendu parler, mais c'était les acteurs de la série, la web-série. On regardera cependant une fin qui se tire un peu trop pour mon goût, surtout qu'on sait très bien comment ça va finir dès le début. Le genre de film totalement prévisible. Bon, c'est comme ça, mais l'envie de bien faire avec les moyens du bourg est manifeste. Ça incite quand même à l'indulgence parce qu'il y a de bonnes idées, des réflexions intéressantes sur le fond, même si quand même attendu et convenu, mais désamorcé par le côté comédie et humour du film. Donc bon, ça peut se voir, surtout pour les jeunes. Je pense que c'est un film qui est à réserver aux moins de 40 ans. Principalement. Les personnes de troisième âge, elles seront plus intéressées par le film dont je parlerai plus tard, qui est Le Tigre et le Président. Voilà, ça s'appelle Le Visiteur du Futur. C'est au Méga CGR, c'est au Colisée et c'est au Pâté Quinconce. Petite pause musicale. Alors, on va changer radicalement de genre musical. Ça s'appelle Vrrr. Et c'est un titre que l'on entend, semble-t-il, dans Rodéo. Je n'ai pas vu Rodéo, je me contente de faire confiance à des sites qui répertorient les bandes originales, un site qui s'appelle Cinésique. Et donc, ce Vrrr, c'est interprété.
T'as vu le titre déjà
Tabiti, oui. Voilà, oui, Vrrr, par Tabiti sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Et l'homme se ramène la grégouze. Ce soir, je me mets bleu. Sur le bêta, on est 12. La gagne au 22, charge une meuf du taxi brousse. Audi 3 litres, fais la ménia vers les coudes. Et Paul, tu veux sa sœur, je traîne plus trop dans le secteur. Trop d'informateurs, quand on parle trop qu'on a peur. Si t'es bavard, tu meurs, bats les couilles du golf center. Moi, je veux l'hélicoptère, lui, là, t'en as pas d'odeur. Mais la misto a du flair, tu penses sur moi, tu t'es mini. On se connaît plus minon, Rafale FM minimi. 3 morts minimum, on va te faire danser Kiriri. Une gueule.
sur la lune, au fada. Bientôt je bouge sans prendre bagarre. Prends ma dune et je m'arrache. Rinté, vitinté, t'es blindé, on va te péter. Pépé, ripoulé, ça module, ouais. Ta bikini a rendé, qui arrive va rendre. J'y voura, j'y voura.
Tabiti, c'est un titre qui, semble-t-il, on entend dans le film Rodéo, dont on a parlé, qui est proposé par les cinéastes Le Tigre et le Président. C'est un film proposé cette fois-ci par le Méga CGR et le Pathé Quinconce. Là aussi, c'est un premier film, même beaucoup de premiers films cette semaine. Un premier film de Jean-Marc Perrefitte. Jean-Marc Perrefitte avait réalisé auparavant un court-métrage. C'est un réalisateur, producteur et monteur. Son film dure 1h38 et il est avec Jacques Gamblin, André Dussolier. 1920, les années folles, Georges Clemenceau vient de perdre l'élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir, ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le tigre Clemenceau. Très partagé la revue de presse, Jean-Claude Raspi-Ajas dans La Croix, la rivalité entre ces deux figures majeures de la Troisième République, l'idéaliste et le cynique, flanqué de Poincaré et de Mitterrand, fournit un passionnant matériau scénaristique que le réalisateur maîtrise jusqu'au dernier tiers de son film. Olivier Delcroix, Le Figaro, André Dussolier et Jacques Gamblin incarnent avec malice Georges Clemenceau et Paul Deschanel, ferraillant à l'élection présidentielle de 1920. Ouest France, une hésitation perturbante qui ne permet pas à cette proposition de décoller du statut de charmante comédie. Jérôme Garcin, l'Obs, dommage d'avoir tiré de ce sujet passionnant une comédie boulevardière à la Feydeau, où comme par hasard, Christian Heck de la Comédie Française excelle dans le rôle d'Alexandre Guy Mitterrand, qui succéda à Deschanel. Adrien Gombeau dans Positif, mise en scène sans grande audace, portée par une voix off un peu lancinante, le tigre et le président est au moins instructif et original par son sujet. Je confirme. Le Monde, la première partie du programme est des plus intéressantes, la seconde est hélas plus convenue, mais les comédiens y mettent tellement de plaisir qu'on pourra s'y divertir. Jacques Maurice dans Télérama, guidé par le souci d'honorer la mémoire de ce perdant excentrique, les scénaristes ont le mérite de révéler une page méconnue d'histoire tout en s'accordant des libertés. C'est un atout mais aussi un handicap entre le réalisme et la fantaisie surréaliste. Cette comédie a du mal à s'épanouir, souffrant d'un manque de densité narrative comme d'audace poétique. Et enfin, Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, inspiré de faits réels mais tordu sans vergogne, ce drame historique fait de ses personnages des caricatures dans les acteurs qui cabotinent à fond, forcent le trait jusqu'au ridicule. Voilà, donc ça s'appelle Le Tigre. Le Tigre, c'est Clemenceau. Et le président, c'est Deschanel. C'est proposé par le Méga CGR et par le Pathé Quinconce. C'est une fantaisie historique. C'est une fantaisie historique qui prend certes quelques libertés avec la réalité, mais qui est par contre parfaitement juste à propos du contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est l'immédiat après Première Guerre mondiale. On est en 1919-1920. Et c'est parfaitement juste également sur la personnalité des deux principaux protagoniste. Clemenceau, c'est le père de la victoire, un homme autoritaire, pragmatique, madré, impitoyable envers ses adversaires et célèbre pour ses bons mots, cruels à leur égard. Et puis en face, il y a Paul Deschanel, c'est un homme politique jusqu'alors de second plan, idéaliste, visionnaire, plein d'humanisme, aux idées avant-gardistes pour l'époque, ici présenté comme un type décalé, à l'âme de poète, voilà. Il a été élu à la surprise générale face à Clemenceau pour être président de la République. Alors, les vraies raisons politiques sont, moi je les connais un petit peu, parce que j'ai quand même été président dans une autre vie.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire.
Oui, les vraies raisons politiques sont quand même occultées dans le film au profit de l'évocation des personnalités. La vraie raison politique, c'était que personne ne voulait, enfin, à l'époque, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel, mais par les députés, et personne ne voulait de Clemenceau parmi les députés, les sénateurs comme président de la République, parce que Clemenceau était un type autoritaire à poigne, et on craignait que la présidente de la République change un petit peu de personnalité, Jusqu'alors, le président de la République, comme on le dit dans le film, c'est lui qui inaugure les chrysanthèmes. Hein, et c'était pas du tout l'idée de Clémenceau de faire ça. Voilà, bref. Bon, le film prend prétexte donc de l'épisode qui rendit célèbre, malgré lui, Deschanel. Cet épisode, c'est tout simplement que c'est un épisode qui a aussi précipité la chute de Deschanel. Hein. Il a été retrouvé en rase campagne après être tombé du train qui l'a mené en voyage officiel. Voilà. Donc, il a eu une absence. Alors, à l'époque, les trains ne roulent pas vite. Il est certainement descendu à un moment du train, alors que le train allait lentement, et le train est reparti sans lui.
C'est une histoire vraie?
Ah oui, c'est une histoire vraie, absolument. Ah oui, ah, oui, oui, tout à fait, oui. Le film, donc, sous la forme d'un long flashback, démarre, alors, un an plus tôt, au moment de son élection surprise. Alors, c'est un film qui n'intéressera sans doute que les gens extrêmement férus d'histoire. En effet, quand même, certaines connaissances sur l'époque et le contexte semblent quand même nécessaires pour apprécier pleinement le film. Franchement, sinon, on appréciera quand même ce face-à-face de deux grands acteurs qui sont parfaits dans leurs rôles respectifs, incarnant ces deux personnalités si différentes. Alors bien sûr, c'est du cinéma très classique dans sa forme, mais il recèle quand même ça et là quelques belles idées poétiques de mise en scène pour illustrer la folie douce qui s'empare de Deschanel. Alors on pourra aussi reprocher au film de trop le... Alors je vais essayer de prononcer ça d'une seule traite, le trop le contemporanéiser. Et alors un peu trop contemporain. En faisant de Deschanel un précurseur de combat politique de notre époque. Malgré tout, ça reste quand même un film très agréable à regarder et à apprécier, pour ses bons mots notamment, et plus particulièrement, je pense que c'est un film qui plaira aux gens du troisième âge, comme moi, quoi, ou comme Pierre, voilà. Et puis c'est un premier film qui sort quand même des sentiers battus habituels pour ce genre d'œuvre. En général, les premiers films, c'est les gens qui racontent leur vie dans une chambre. Bon, et là, vraiment, il y a une originalité dans le choix de l'histoire. Un premier film, franchement, original par le thème choisi.
Et on n'était quand même pas né en 1920.
Hein. Non. Enfin, je pense que c'est plutôt un film pour les gens qui aiment un cinéma calme, oui. Un cinéma classique, avec de très bons acteurs, et puis une histoire...
Histoire de France.
Voilà, oui. Voilà, exactement. Ça s'appelle Le Tigre et le Président, c'est proposé par le Méga CGR et le Pâté... Pâté Quinconce. Le dernier film à l'affiche cette semaine, son titre c'est Plan 75. C'est un film japonais, il est proposé uniquement au Colisée, en version originale, il y a 3 séances par jour. La réalisatrice alors, s'appelle Shi Ayakawa, c'est une réalisatrice, scénariste, dialoguiste, elle est née en 76. Elle avait réalisé auparavant un court-métrage, et puis en 2018 elle avait participé à une œuvre collective, donc un court-métrage là aussi, c'est son premier long-métrage. On est au Japon. Dans un futur proche, le vieillissement de la population s'accélère. Le gouvernement estime qu'à partir d'un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en place le programme Plan 75 qui propose un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à leur jour. Une candidate au Plan 75, Michi, recruteur du gouvernement Hiromu et une jeune aide-soignante philippine Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère.
Voilà. C'est un peu cynique, hein, quand même.
Oui, alors on n'a pas voulu aller le voir, ni Pierre ni moi, parce qu'on est presque concernés par l'affaire. Non, je présente, mais bon, ouais. Voilà. Alors, la revue de presse, eh bien, Michael Mélinard dans L'Humanité, Shi Ayakawa dénonce avec finesse une course effrénée au profit. Jean-Claude Raspienjas dans La Croix, la réalisatrice signe une œuvre bouleversante. Olivier Delcroix, Le Figaro, un film tellement réaliste qu'il fait froid dans le dos. La rédaction du Parisien, magnifique et bouleversant, terrible par moments, ce premier long-métrage récompensé d'une mention à la Caméra d'Or à Cannes en 2022, nous saisit par l'atroce situation qu'il décrit. Guillemette Audicino dans Télérama, jusqu'ici, des cinéastes avaient abordé, à travers des cas particuliers, le thème de l'euthanasie choisie. Ce film remarquable est le premier à l'aborder comme un potentiel système d'État, et cela fait froid dans le dos. Le Monde, malgré une approche programmatique où chaque plan pousse le curseur vers l'anéantissement et une mise en scène verglacée légèrement redondante, Plan 75 a le mérite de décrire les mécanismes de l'intolérance à l'égard des seniors particulièrement présents au Japon. Marie-Lou Dupont-Chel, Les Inrecupibles, habile et efficace, Plan 75 pâtit cependant de son exemplarité, parfois de son léger penchant pour le misérabilisme et de sa tenue un peu scolaire. Jean-Marie Samoki, dans Cahiers du cinéma, Hayakawa étant à l'échelle du film tout entier une esthétique de nature morte, faisant longtemps durer les plans dans un clair-obscur étudié pour contempler non seulement la mort, mais l'intériorisation de la nécessité sociale de mourir. Cette absence d'énergie crée un rythme trop souvent languissant qui englue sa mise en scène. Et enfin, l'ops, le sujet est sinistre, la réalisation glaciale. On comprend les conflits humains, on a du mal à suivre cette narration lente, parfois glaçante. Le problème des vieux est aigu, mais on n'est pas obligé de s'asseoir dans une salle pour le subir. Eh bien, c'est mon cas. Je ne suis pas allé le voir dans une salle pour le subir. Plan 75, c'est un film qui est proposé par Le Colisée, 3 séances par jour en version originale uniquement. Voilà. Allez, on va à nouveau faire une petite pause musicale et c'est à nouveau un titre que l'on entend dans Rodeo, Look At Me. Et le groupe ou la personne qui interprète Look At Me, c'est XXXTentacion, XXXTentacion, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Hey, yeah, hey, yeah, yeah, yeah.
Can't keep my dick in my pants, ayy. My bitch don't love me no more, ayy. She kick me out on life, bro, ayy. That bitch don't wanna be friends, ayy. I give her dick, she a man, ayy. She put her 10 on my dick, ayy. Look at my wrist, about 10, ayy. Just got a pound of the booth, ayy. Bought that shit straight to the booth, ayy. Tell me my health is a fool, ayy. She say one fuck, bitch, I do, ayy. You put a gun on my mask, ayy. I put a hole in your pants, ayy. I just got lean on my Sumis, ayy. I got a Uzi, no Uzi. Follow me, look at me, ayy. Fuck on me, yeah. Look at me, ayy. Look at me, look at me, yeah. Fuck on me, yeah. Look at me, yeah. Fuck on me, look at me. Fuck on me, yeah. Look at me, fuck on me, yeah. Ayy.
Tell you fuck, nigga, fuck me up, pipe up. Hey, shouts out Benzo now. Hey.
I took a white bitch to store the bus. That little bitch got a throat, fuck. I like to rock, but I'm misfit. My humor bitch like a wrist slit. Curly hair bitch like I'm poor, pink. Got like 3 bitches or more, man. Skeet on your man, bitch, it's 4. Hey, don't want your pussy, just one. Hey, look at me, fuck on me. Look at me, fuck on me. Look at me, fuck on me. Look at me, yeah, hey. Look at me, fuck on me. Look at me, fuck on me. Look at me, fuck on me. Look at me, yeah.
Look at me, XXXTentacion, pardon. Ouais, bon, je sais pas ce que c'est. Enfin, bref, peu importe. C'est un titre que l'on entend dans le film Rodeo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine qui nous attend sur les écrans morceaux? Déjà, si vous nous écoutez en direct, il y a ce soir une avant-première au Pâté Quinconce à 20h sur Les Enfants des Autres. C'est un film qui doit sortir le 21 octobre. Et puis, c'est pas une nouveauté du tout, mais c'est le film qui est peut-être le film que je préfère de tous les temps pour moi. Le cinéaste propose La Nuit américaine de Truffaut ce soir à 20h. C'est mon numéro 1 de tous les temps pour moi comme film, si je dois faire un classement. Il y a Les Demoiselles de Rochefort qui sont pas loin. Mais j'aurais pu vous en passer d'ailleurs un extrait des Demoiselles de Rochefort parce que dans le film Compromat, on entend la fameuse chanson des jumelles. Et oui, mais je ne l'ai pas fait parce que c'était quand même pas de tout trop de circonstances. Donc voilà, ça pour les avant-premières. Donc vendredi ce soir à 20h, Les Enfants des Autres au Pâté. Et puis donc, c'est pas une avant-première, mais à 20h, La Nuit américaine au cinéma Les Cinéastes, présenté d'ailleurs par l'équipe des cinéastes, je crois. Voilà, donc les affaires reprennent la semaine prochaine avec aussi Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret. Je l'ai vu, j'ai adoré ce film. Évidemment, il faut aimer les films d'Emmanuel Mouret, parce que c'est toujours pareil, c'est très bavard, mais c'est absolument... c'est très bavard, mais c'est absolument phénoménal.
Comme c'est avec qui?
C'est avec Sandrine Kiberlin et Vincent Macaigne.
Ah oui, Kiberlin, j'aime bien.
Mais franchement, j'ai adoré ce film-là. Il est pourtant assez long, hein, il doit faire 1h50. Ah non, il fait 1h40, pardon. Et j'ai adoré ce film, c'est pratiquement que des dialogues, hein, mais c'est vraiment adorable comme film. Alors les autres films qui sont proposés la semaine prochaine, il y aura Citoyen d'honneur avec Cadmerade et Fatsa Bouyamed, il y aura Canaille avec François Cluzet, Doria Tillier et José Garcia, et puis les cinéastes proposent plein de films, alors Feu Follet, Je sais que c'est un film qui a été présenté en présence du réalisateur il y a quelques jours, mais je ne suis pas allé le voir. Fofoli, c'est un réalisateur portugais. Le film fait 1h07, donc c'est pas très long. À propos de Joanne, un film avec Isabelle Huppert, au cinéaste aussi. Jeunesse en sursis, ça c'est un film ukrainien. Et puis un film qui doit être là aussi ukrainien probablement, un documentaire, Babillard Context. C'est un film sur le massacre par les Einsatzgruppen des Juifs à Babillard en Ukraine. À l'époque c'était l'URSS. Voilà, et puis pour les enfants, il y a un dessin animé qui s'appelle Ariol prend l'avion. Voilà, donc nous on se retrouve normalement la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, et on vous recommande...
Ah ben, Revoir Paris.
Revoir Paris. Oui. Tout le monde aime Jeanne, on peut le recommander aussi.
Oui, oui, c'est pas mal non plus.
Ouais,
c'est tout à fait un autre genre.
Voilà, Compromat, moi j'ai pas détesté, même si j'ai quelques petites réserves. Et puis, Le Tigre et le Président, mais Le Tigre et le Président, c'est quand même plutôt pour des personnes au-dessus de 55-60 ans, je dirais. Alors que Le Visiteur du Futur, c'est pour les...
Bah, ça dépend, les étudiants qui étudient l'histoire, non,
ouais, vraiment. Je suis pas persuadé, enfin je sais pas. Si on étudie beaucoup ce genre de choses...
C'est trop fiction.
Non, je sais pas, c'est trop anecdotique. Oui. Quoi, encore que. Bon, pas grave. Voilà, donc c'était Clap sur Radio Alpa. C'est la nouvelle saison. Peut-être la dernière, d'ailleurs, parce que je me pose des questions.
Ah. Hein.
Mon grand âge fait que je commence à fatiguer un petit peu. Et donc, nous, on se retrouve normalement la semaine prochaine sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Voilà, au revoir. Thank you.